Trisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
du Trisac.
Le Tassé est avec nous pour parler de politique étrangère et américaine. Monsieur Tassé, bonjour.
Bonjour Benoît, comment ça va?
Alors, très bien, merci. Les démocrates, c'est une grosse journée pour eux.
C'est une grosse journée parce qu'en fait, ils ont commencé à essayer de faire passer leur grande loi de 1900 milliards de dollars pour évidemment aider les Américains qui passent à travers la COVID-19. On parle d'argent qui irait aux familles, qui irait aux hôpitaux, qui irait aux écoles, donc qui servirait aussi à distribuer les vaccins. Et il faut que cet argent-là arrive avant le 14 mars, parce que le 14 mars, c'est la fin des anciennes mesures qui avaient été décidées du temps où Trump était président. Alors, la partie n'est pas tout à fait gagnée. Il faut que, évidemment, le texte a dû être lu, c'est fait. Le texte de 628 pages, une dizaine d'heures, a été lu. Très bien, mais maintenant, il y a des débats, il y a une phase d'amendement, et il va y avoir des votes sur chaque amendement. Donc, ça peut nous amener très facilement, ça, au-delà du 14 mars, et c'est ce que les démocrates ne voudraient pas, parce que ce genre de loi est une loi qui ne doit pas être approuvée à 60% du vote au Sénat, c'est 50% plus 1, et on sait que Kamala Harris va pouvoir faire passer ce vote pour les démocrates, mais les républicains peuvent faire traîner ça en longueur très longtemps. Je suis pas sûr que ce soit à leur avantage, par exemple, parce que ça pourrait très facilement se retourner contre eux. Les démocrates pourraient très facilement dire, regardez, les républicains vous empêchent, mesdames et messieurs, de recevoir de l'argent, vous empêchent de recevoir ce qu'il faut pour sortir l'économie du marasme, même si ça va un petit peu mieux. Et encore, l'argent a été diminué. Il y a des démocrates qui sont pas contents. On devait donner au départ 400 dollars par famille par semaine, 400 dollars américains. C'est tombé à 300 parce qu'il y a des démocrates très conservateurs qui trouvaient que c'était trop d'argent pour les familles.
Ah oui, un 100 piastres de trop, hein?
Oui. Mm-hmm. Oui, bon. Des gens qui eux-mêmes font des centaines de milliers de dollars par année, tu sais, mais qui vont aller grappiller pour 100 dollars pour des familles qui, elles, ont vraiment besoin de ce 100 dollars.
Dis donc, Loïc, c'est toujours le 1900 milliards de dollars promis à l'époque de Donald Trump. Il y a rien qui a été payé encore.
Non, il y a rien qui a été payé encore. C'est-à-dire que, non, attends. Ça a été promis par Biden. C'est le plan Biden, ça. Il y a de l'argent qui est rentré. Trump avait un plan. Il y a même eu un plan avant. Et cet argent-là rentre. En fait, ce sont les prestations d'assurance chômage qui ont été bonifiées, prolongées, etc. Donc, il y a de l'argent qui est rentré. Mais comme je te disais, ça arrête le 14 mars. Donc, il faut absolument qu'ils s'entendent pour que l'argent rentre après le 14 mars. Parce que l'économie américaine a encore des problèmes. L'économie américaine est encore sous le coup de la COVID-19.
Bon, et il y a quoi? On annonce 20 heures de débat?
Oui, une vingtaine d'heures de débat. Ensuite, tu as tous les amendements. Puis, il va falloir voter les amendements un par un. Et ça, on peut déposer autant, les républicains peuvent déposer autant d'amendements qu'ils veulent. Il y a 628 pages. Tu peux en mettre des amendements.
Ben oui.
628 pages. Mmh. Et c'est ça le fond du problème. Tu sais, c'est est-ce que vous allez empêcher le projet de loi de passer en mettant trop d'amendements, des amendements inutiles, ça peut être des trucs de virgule, des points de détail. Mais il faut voter à chaque fois. Et ça peut ralentir pendant des jours le dépôt, l'arrivée de la loi, le vote réel sur la loi.
Bon, alors les Italiens sont pas fins avec les Australiens.
Ils sont pas contents en Australie et en Océanie. En fait, c'est une loi qui existe en Europe. Tous les pays de l'Union européenne ont le droit de demander que des exportations de vaccins à l'extérieur de l'Union européenne soient arrêtées. Or, l'Italie vient de faire ça pour l'Australie. Elle vient d'arrêter l'exportation de très exactement 250 700 doses du vaccin d'AstraZeneca. Et l'annonce a été faite hier par l'Australie, mais la décision, en fait, remonte au 26 février. Et l'Australie, évidemment, est vraiment pas contente. Mais attention, la situation n'est pas si catastrophique que ça. En fait, l'Italie dit, écoutez, le gouvernement italien dit, écoutez, c'est parce qu'en Australie, ils sont capables de produire 50 millions de doses de vaccins eux-mêmes. C'est un très petit montant de doses dont il s'agit ici. Et de toute façon, nous, en Europe, On a des problèmes avec nos doses. On n'a pas assez de doses. On en manque. Et on sait que AstraZeneca avait promis de fournir des millions de doses pour le premier trimestre. Elle sera pas capable, cette compagnie, de faire ça. Elle va en fournir seulement le tiers. Donc, nous demandons que l'Australie ne reçoive pas ses exportations de vaccins. C'est pas un pays qui est à risque. C'est très intéressant parce que ça pose la question du Canada. Est-ce qu'un pays de l'Union européenne pourrait faire la même chose avec des exportations de vaccins qui viennent d'Europe? Mm-hmm. Et la réponse est oui. Est-ce que le Canada tomberait dans la catégorie des pauvres pays du tiers-monde qui en ont besoin? On est au 43e rang mondial. La question se pose aussi en termes de vaccination, tu sais. Mais c'est pour te montrer combien on est à la merci de pays étrangers pour des questions qui sont névralgiques pour notre santé et pour notre économie. Et combien il est urgent de reconstruire notre économie pour qu'on soit autonome dans un certain nombre de secteurs clés. Puis cette histoire, tu sais, t'as vu passer ça, cette histoire du gouvernement du Québec qui a décidé d'acheter des vaccins, des masques chinois parce qu'ils sont 1,40$ au lieu d'être 1,45$. Puis t'as une entreprise de Louisville qui peut les faire, c'est ça, pour 1,45$. Mais pour 5 cents, ils vont aller acheter des masques chinois.
Non, j'ai pas vu ça.
T'as pas vu ça? Là, tu te dis, mais voyons, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Où est le panier bleu là-dedans? Où est notre consolidation économique là-dedans? Est-ce qu'ils ont compté des gaz à effet de serre? Est-ce qu'ils ont compté des impôts qui seraient pas payés au Québec? Est-ce qu'ils ont compté le fait qu'on n'aime pas tellement recevoir des produits d'un pays qui devient de plus en plus dictatorial? Que tout ça, ça compte. Mais non, c'est pas rentré en ligne de compte. C'est le plus bas soumissionnaire pour 5 cents.
Quelle connerie. Je savais pas ça. Vraiment, ça me dépasse. Et pendant ce temps, justement, à Hong Kong, le gouvernement chinois serre la vis.
Oui, on en avait discuté un petit peu hier. Tu sais, t'avais dit, on parlait de patriotes chinois qui seraient à la tête. Puis je t'ai dit, ça augure très mal. Eh ben, effectivement, le premier ministre chinois, Li Keqiang, en a fait l'annonce aujourd'hui. En fait, ce qui va arriver, c'est que, d'après ce qu'on comprend, il va y avoir un comité électoral qui va être contrôlé par Pékin et qui va décider de qui peut se présenter et pas se présenter. Et comme par hasard, les candidats qui seront pour la démocratie vont tous être écartés et tous ceux qui vont être complètement inféodés à Pékin, qui vont être sous la botte du Parti communiste chinois, vont passer. C'est tout simplement ça qui va se produire. Et Li Keqiang, le premier ministre chinois, a le front en plus de dire aux pays du monde, ne vous mêlez pas de ça, ce sont nos affaires internes. Un, c'est pas des affaires internes, c'est un traité entre le Royaume-Uni et la Chine. Et la Chine, je le rappelle, n'a pas le droit, d'après ce traité, de se mêler des affaires internes de Hong Kong pendant 50 ans. Ils le font quand même. Mm-hmm. Et deux, ce qui se produit, c'est qu'ils sont en train de frapper sur la démocratie. Le gouvernement chinois essaie de détruire la démocratie. Et oui, c'est des affaires de tous les pays du monde et de toutes les démocraties quand un pays essaie de faire ça. Et plus que ça, la Chine, c'est la première puissance économique au monde maintenant. Donc, ce qui se passe en Chine, c'est des affaires de tout le monde. Mais en Europe, on réagit très, très mal à ça. Et les dirigeants européens disent, écoutez, touchez pas à ça, s'il vous plaît. Ça pourrait avoir des conséquences très graves. Et ça sent de plus en plus donc le boycott des Jeux Olympiques de Pékin, ce qui serait vraiment un coup très dur pour Pékin, parce que il y a un truc auquel peu de gens ont pensé, c'est que les Jeux Olympiques d'hiver sont des Jeux Olympiques où les participants sont surtout des pays nordiques. Donc, des démocraties en très grande partie.
Oups.
Tu vois ça, toi, le Canada, oui. Les États-Unis, les pays scandinaves, etc., qui sont pas aux Jeux Olympiques d'hiver.
Oui.
Oups, en effet.
Bon, parle-nous du Brésil avant qu'on se quitte pour la fin de semaine.
Bande de géniards, bande de plaignards, allez-vous cesser de vous plaindre? Ça, c'est Jair Bolsonaro qui dit ça aux Brésiliens quant à des records de mortalité avec la COVID-19 en 24 heures, 1699 morts mercredi, c'est le deuxième pire bilan. Il y en a eu 1910 la journée d'avant. Il y a 260 000 morts. C'est le deuxième pays au monde qui a le plus de morts après les États-Unis. Puis il dit, cessez de gêner. Est-ce que vous allez continuer à pleurer longtemps là-dessus? Combien de temps est-ce que vous allez demeurer à la maison et tout fermer? Plus personne, dit Jair Bolsonaro, ne peut supporter ça encore. Nous regrettons nos morts à nouveau, mais nous avons besoin d'une solution.
Ben oui.
Et il dit, ouvrez tout, parce que c'est trop mauvais pour l'économie, tout ça. Alors, les gouverneurs des provinces et des villes disent, non, attends, un instant, là, en particulier le gouverneur de Sao Paulo, 46 millions de personnes à Sao Paulo. C'est un gars fou, Bolsonaro, qui attaque les gouverneurs et les maires. Et donc, ces gens-là ont décidé d'acheter des vaccins à l'international. Ils ont décidé eux-mêmes d'instaurer des couvre-feux, de fermer les commerces, etc. De faire, en d'autres termes, ce que le gouvernement national du Brésil devrait faire, mais qui fait pas parce que Jair Bolsonaro trouve que c'est mauvais pour l'économie.
Mmh. Bon, OK. Et rapidement, cette soupe aux betteraves en Ukraine.
Ah, mais ça, c'est très bon, la soupe aux betteraves. C'est du borscht. Sauf que le borscht, c'est une soupe qui est partagée, un plat qui est partagé par la Pologne, la Russie et l'Ukraine. Or, l'Ukraine a décidé que ce serait son plat national et que le borscht deviendrait patrimoine de l'humanité. Elle veut que ce soit reconnu par l'UNESCO. Donc, aujourd'hui, en Ukraine, tout le monde est en train de cuisiner du borscht. Mmh. Le problème, c'est que on s'entend pas sur les recettes, avec ou sans choux, avec ou sans cerises, avec ou sans lardons. Ça pose un gros problème. Et figure-toi que la Pologne et la Russie sont pas très contentes parce qu'ils disent, mais non, c'est notre plat national à nous. Vous êtes en train de nous voler ça. Alors voilà.
Des cerises.
Soupe à la betterave.
Des cerises dans une borscht verte.
Mais oui, ça peut être très bon. Des cerises amères, pas des cerises. Eh, dis donc, je t'ai parlé du nom du restaurant. Si j'ai raccroché hier, je m'en suis souvenu. Et... ça s'appelle Casa Alente. Alenteo. Le nom du restaurant.
Portugais.
Bon, oui, c'est ouvert le soir. C'est bon, c'est pas de la grande gastronomie, mais c'est efficace. Portugais, là, il est très bon.
Donc, parfait.
Portugais, entre autres.
Loïc Tassé, merci. À lundi.
Salut.